France Inter, le 7-10.
Claude, vous nous parlez d'un visage.
Le visage de sa fillette que voyait Marc en rêve à l'arrière d'une voiture que le train qu'il conduisait allait percuter. Ils ont duré 3 ans, ces cauchemars d'un cheminot sartois qui se confie aux mains libres et livre, dit-il, ce qu'il n'avait jamais dit à personne, car seul, pensait-il, un cheminot pouvait le comprendre, comprendre ce que vit le conducteur d'un train qui a dû traverser des accidents mortels auxquels il ne pouvait rien. Et Marc a eu sa part de drame, cette voiture notamment dont le conducteur avait voulu forcer un passage à niveau. Ce n'est qu'après l'accident qu'il avait appris qu'il y avait une fillette de 3 ans à l'arrière de la voiture. Les cauchemars étaient venus ensuite. Il raconte aussi, Marc, le soutien permanent de la SNCF et son chef qui l'avait accompagné la première fois qu'il avait dû reprendre la ligne. Ainsi, par la presse, nous partageons un retour à la vie. Ce matin, Le Progrès a fouillé ses archives pour être certain qu'il n'avait pas utilisé jadis l'expression « crime passionnel » pour parler d'un féminicide. Le mot alors n'existait pas. En avril 1987, quand un dimanche à 10h du matin, une Peugeot 104 avait explosé, piégée par le mari de Habiba, dont chacun louait la beauté et la joie, et qui demandait le divorce. Et dans le journal et dans un livre, sa fille, Saba Kehabi, qui avait 9 ans alors, et jouait ce matin-là à la balle aux prisonniers, avec d'autres enfants à Pierre-Bénite à Lyon, témoigne de cette maman qui adorait danser et les films de John Wayne, et puis témoigne de sa vie à elle et de ses frères et sœurs, brisés parfois et parfois reconstruits. Elle a été mannequin, Saba Kehabi. Oh, pas une top modèle, dit-elle, pas assez mince. Dommage, elle aurait aimé travailler avec Azdine Alaïa. 1000 autres souvenirs vous attendent, lisez. Et puis, lisez, dans Sud-Ouest, une histoire de traction à vent, dans laquelle une famille de Cambrai s'était entassée pour fuir l'envahisseur au printemps 40 et avait filé matelas sur le toit, direction le sud. Et de cette fuite, dans une voiture iconique, est née, me dit le journal, une icône à Genèse, un cabinet médical dont le propriétaire offre sourire et bouille ronde. Et vous devinez le petit garçon que fut Jacques Lanciot, 87 ans, qui vit et exerce dans la maison où ses parents s'étaient posés. Il est pédiatre, le docteur Lanciot, 3e génération de petits patients. Voilà donc une nouvelle histoire de vieux médecin qui pallie le manque de jeunes toubibs. Vous en lisez aussi dans La Montagne. Mais à lire ces docteurs chenus, ce n'est pas l'angoisse du non-renouvellement qui me prend, mais au contraire une joie rassurante, la joie de la permanence, d'une manière de soigner d'avant la technologie, la joie du temps qui se prolonge et ne me chasse pas. Jacques Lanciot était devenu médecin parce qu'après la guerre, en 1949, il avait perdu sa petite sœur âgée de 2 ans et demi d'une toxicose, on dit aujourd'hui déshydratation. Eh bien, tant que son frangin soignera d'autres gosses, la môme, elle ne partira pas.
On parle aussi de 2 sœurs.
Mariam la studieuse et Halima la bavarde, que moins d'un an séparées, nées du même père mais de 2 mères différentes, et qui s'aimaient tant qu'au pensionnat du lycée de Chibok au Nigeria, elles dormaient parfois dans le même lit. Elles furent enlevées ensemble le 14 avril 2014, au lendemain d'un examen d'éducation civique par les islamistes de Boko Haram, avec 274 autres lycéennes, dont 82, 10 ans après, ne sont toujours pas revenues. C'est le Wall Street Journal que traduit et publie l'Opinion qui nous rappelle cette déchirure. Nous en avons vu d'autres. Le journal nous dit les survies et les retours de ces jeunes filles qui s'entraidaient pour tenir et guettaient le moment de la fuite. Le journal raconte aussi comment Mariam s'était sauvée en novembre 2016 sans avoir pu prévenir sa sœur. Halima a pu fuir des années après. La première fois qu'elles se sont parlé au téléphone, Halima a dit à Mariam « Tu m'as laissée dans la forêt. Elles vivront ». Sur le site du Monde, vous lisez comment le Mexique découvre que son armée, dans les années 70-80 du siècle dernier, enlevait des opposants, les tuait, larguait leurs cadavres par avion dans le Pacifique, comme le pratiquaient alors des militaires argentins ou chiliens, mais le Mexique, lui, n'était pas censé être une dictature militaire. Lisez aussi sur Le Monde les extraits d'un livre à paraître cette semaine d'une journaliste de Haaretz sur le 7 octobre dans l'an dernier. Quand moururent ensemble Nadeja et Natalia, qui avaient 75 et 71 ans, avaient émigré du Tadjikistan et vivaient à Netivot, une ville pauvre dans le désert israélien, elles rencontrèrent les tueurs du Hamas en route pour la mer morte, parties en excursion. Elles étaient 2 sœurs, inséparables, comme des lycéennes au Nigeria.
Et on parle enfin, Claude, d'une cathédrale.
Celle de Perpignan, dont vous lisez dans l'Indépendant qu'on va fêter à partir d'aujourd'hui les 7 siècles imaginés. Et le parrain des fêtes, Monseigneur Jean-Louis Bruguès, archevêque, qui fut en charge, il en tremble encore, de la bibliothèque et des archives secrètes du Vatican, se souvient, oui, se souvient, qu'en 1324, il faisait froid, c'était une période de famine. Aujourd'hui, nous avons la sécheresse, il y voit une continuité. Dans Nice Matin, on nous parle d'un sanctuaire érigé à Utelle en 850 par des marins qui avaient réchappé au naufrage en voyant une lumière et voulaient en remercier Marie, mais la tempête a ravagé le toit de l'édifice que les eaux rongent. Qu'attendons-nous ? Sur le site du Point, l'universitaire Pascal Perrineau confesse la foi catholique de son enfance lorraine quand on pèlerinait sur la tombe dans la maison de Robert Schumann. C'est très doux. Et sur le site de l'Obs, lisait le chanteur Alain Souchon confesser son amour pour Guillaume Apollinaire et sa Lorelai, et c'est tout aussi doux. À Bacharach, il y avait une sorcière blonde qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde. Devant son tribunal, l'évêque la fit citer. D'avance, il l'absolvit à cause de la beauté. Il avait bien raison, cet homme.
Merci Claude pour cette revue de presse.